19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble, nous démarrons une toute nouvelle semaine. Et dans cette nouvelle semaine, eh bien, écoutez, certains sont en train d'emprunter les routes de France pour aller se rendre en vacances. Et je leur souhaite de passer d'excellentes vacances, les amis. Prenez soin de vous, vous avez bien raison. Et d'autres, d'ailleurs, profitent pour aller bosser. On leur souhaite aussi bon courage. Au programme, durant une heure jusqu'à 20h, dans les informés, eh bien, ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette terrible histoire d'un enfant, un jeune enfant, Otman, 7 ans, il y a quelques années, tué dans un accident d'ascenseur. Cet accident d'ascenseur qui lui a valu évidemment défectueux et dangereux dans un immeuble du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. On reviendra sur cette incroyable histoire où l'impossible deuil doit se faire avec la maman qu'on a réussi à voir donc dans une poignée de minutes. Et puis nous aurons aussi son avocat, maître Charles Morel, qui viendra nous expliquer juridiquement où ils en sont précisément, puisque l'affaire est toujours entre les mains de la justice. Ensuite, après, le face-à-face. Oui, les amis, le face-à-face tout à l'heure, eh bien, c'est deux débatteurs, deux influenceurs qui viendront confronter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. Et attention aujourd'hui, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000. D'abord, entre stupéfaction, rire gêné, moquerie, elle s'est fait tailler, la maire de Paris, Madame Élise Hidalgo, qui semble soudainement découvrir les taxis à Paris. Et elle découvre même, d'ailleurs, découvrir Paris. Tiens, tiens. Alors, est-ce que c'est un coup de communication pour la campagne présidentielle ou est-ce que c'est une réalité? On en parlera tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi, vous savez quoi, d'un scientifique, d'un professeur qui nous alerte sur le variant Omicron extrêmement élevé et qui, évidemment, atteint des niveaux de contamination jamais atteints. Le professeur s'appelle Mahmoud Jurek et il nous dit qu'aujourd'hui, on doit effectivement être prudent puisque la contamination se propage à une vitesse incroyable. Et puis pour endiguer la cinquième vague, le gouvernement envisage de rendre le pass sanitaire, vous le savez, obligatoire en entreprise, mais il veut, et c'est dans les esprits, le pass sanitaire qui devient le pass vaccinal. 01 53 48 3000, je vous entendrai aussi au standard. C'est parti les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, l'invité du jour aujourd'hui, c'est parti.
Les informer, l'interview.
Et je suis avec, pour réclamer justice pour Otman, 7 ans tué dans un accident d'ascenseur avec la maman qui s'appelle Soumaya. Bonjour Soumaya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Soumaya. Évidemment, merci grâce à Nadia aussi qui est à vos côtés, qui m'a alerté tout de suite, qui m'a dit effectivement, on se doit de continuer de faire résonance, de faire résonner en tout cas votre fils Otman. Votre fils Otman qui perdait la vie à l'âge de 7 ans dans un ascenseur complètement dangereux et défectueux dans un immeuble du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. Revenons sur ce fameux 10 octobre 2015, ma chère Soumaya, mère de famille de votre fils perdu il y a 7 ans maintenant. Que s'est-il passé? Rappelez-nous l'histoire pour nos auditeurs qui, évidemment, prennent le récit en cours.
Oui. Otman, le 9 octobre 2015, il a pris l'ascenseur pour aller chercher acheter un truc avec son frère, en fait, un sandwich avec son frère.
Oui.
Ils avaient l'argent de poche de la semaine que leur papa lui a donné. Et il était accompagné avec leur père en ce moment-là. Et après, il les a laissés chez le sandwicher pour acheter le sandwich. Mais il manquait 1,10€ pour m'offrir un sandwich à moi.
Oui.
À l'époque, j'étais enceinte de 4 mois.
C'était en 2015, hein?
C'était en 2015.
Mi-octobre, oui. 2015.
Oui, oui, voilà.
Très bien.
Otman, il est revenu tout seul pour chercher l'argent qui manquait.
Oui.
Je lui ai donné, et il est parti, il est parti rejoindre son frère pour, oui, lui donner le reste.
Oui.
Et voilà, et 10 minutes, 15 minutes après, j'ai vu qu'ils ne sont pas rentrés, je me suis inquiétée.
Oui.
J'ai appelé mon mari, en ce moment-là, il travaillait en sécurité, il devait être en son travail. Je l'ai appelé par téléphone, je lui ai dit que voilà, les enfants, ils sont pas rentrés. Et il m'a dit, t'inquiète pas, ils vont revenir, ils vont revenir. Et je regardais par la fenêtre. Moi, à l'époque, dans Blériot, j'habitais au 7e étage.
Oui, quartier du Val-Fouré, où on a une fréquence sur le 100.5.
J'habitais au 7e étage, donc, et j'avais un enfant en bas âge à l'époque.
On est très écouté au Val-Fouré, Somaya. On est très écouté parce qu'on a une fréquence sur le Val-Fouré, sur le 100.5. Et c'est important que vous témoigniez. Je vous remercie infiniment. Et à ce moment-là, donc, vous ne voyez pas vos enfants arriver. Que se passe-t-il?
Je regardais par la fenêtre, mes fenêtres qui sont fermées par cadenas, parce que quand même, je suis maman, donc j'avais peur pour mes enfants. Je regardais par la fenêtre, ben, je ne les voyais pas en bas. J'attendais, et à la fin, je suis descendue. J'ai vu que l'ascenseur ne marchait pas. Ben, j'ai pris les escaliers avec mon petit qui avait 12 mois dans la main.
À l'époque, oui.
À l'époque. Et ma fille, elle était avec moi et j'ai descendu. Je suis restée devant la porte en bas. Je cherchais, je demandais aux jeunes est-ce qu'ils ont vu mes enfants parce que je les connais.
Oui.
Et en fait, l'ascenseur, mon fils, il était juste dans l'ascenseur. Et moi, je cherchais ailleurs.
Et à ce moment, qu'est-ce qui vous traverse dans l'esprit? À quoi vous pensez, Soumia? Qu'est-ce qui vous pensez au pire à ce moment-là?
Pour moi, j'ai jamais imaginé que mon enfant, il était juste en bas. Il était juste dans l'ascenseur. Et moi, j'ai cru qu'il était que quelqu'un il l'a pris ou qu'il lui arrivait quelque chose.
Et vous découvrez, à quel moment, vous découvrez à quel moment qu'il était coincé dans l'ascenseur qui était, vous le saviez pas. Est-ce que l'ascenseur était défectueux toute la journée à ce moment-là? Est-ce qu'il était dangereux? Est-ce que c'était une récurrence, Soumia?
Oui, l'ascenseur de mon bâtiment et des autres dans tout le parc où j'habitais, tout le temps il tombait en panne. Donc c'est pas que l'ascenseur de mon immeuble.
Et donc votre fils prend l'ascenseur?
Oui.
C'était, il revenait justement de son achat de son sandwich.
Après mon grand, il est revenu à la Redine. Il me dit, il est au Haute-Maine. Je lui dis, il est parti te rejoindre avec l'argent qui manquait. Il m'a dit non, il est pas venu. Et je lui dis, va, cours, regarde ton frère et peut-être qu'il est dans le parc.
Ouais.
Et il est revenu, il m'a dit non, il est pas là. Il a pris les escaliers 2-3 fois. Et chercher son frère. Après, moi, j'ai descendu après pour chercher mon fils. Et mon fils, il était déjà mort dans l'ascenseur.
Il était déjà mort dans l'ascenseur. Oui. Je me souviens qu'à l'époque même, vous aviez organisé...
Oui, comme l'ascenseur est tombé toujours en panne, j'ai même pas pensé qu'il est dedans. Moi, je cherchais ailleurs.
Donc, tu es accidentellement... Dans l'ascenseur, où vous habitiez en 2015.
Oui.
Dites-moi, Soumaya, quand vous apprenez la mort de votre fils à ce moment-là, dans l'ascenseur, j'imagine qu'il y a cet impossible deuil 7 ans après.
6 ans après.
6 ans après, pardon.
Oui.
Comment vous vivez votre deuil?
J'arrive pas à le faire. J'arrive pas, j'ai toujours l'imagination, je pense toujours à mon enfant, je dis peut-être que l'ascenseur, il était bien, peut-être c'est l'ascenseur, il était bien, il serait là, il aura 13 ans, il serait au collège, je vois ses copains, j'arrive même pas à les voir.
Ouais. Vous décidez de réclamer justice, Soumaya, vous êtes la mère d'Othman.
Oui.
Et dans vous décidez de réclamer justice parce que il y a cet incroyable vice de procédure qui vous écœure, si j'ai bien compris.
Oui.
Qui vous écœure. C'est quoi ce vice de procédure qui a fait que je vous écoute, Soumaya.
Le vice de procédure, comme quoi leur avocat il n'a pas eu le dernier mot dans le procès. Donc je comprends pas. Est-ce que ces gens-là ils ont pas de cœur? Est-ce qu'ils n'ont pas des enfants? Moi, j'aimerais bien...
L'ascenseur était, effectivement, vous me le confirmez, est-ce qu'il était défectueux, dangereux pour tout le monde, pour tout l'immeuble? Vous me confirmez. Et pourquoi à ce moment-là, personne n'est venu le réparer? Pourquoi la société à aucun moment n'est venue le réparer? Pourquoi vous avez alerté à plusieurs reprises que l'ascenseur ne fonctionnait
déjà,
pas?
Déjà, il est tombé pendant 2 mois en panne et moi j'étais à l'époque là où il est tombé en panne, j'étais enceinte de 7 mois de grossesse et il est tombé pendant 2 mois en panne Et on galérait, j'avais des enfants qui étaient au maternel, je prenais les escaliers, les 7 étages. Tous les matins, vous connaissez, quand on dépose les enfants, il faut les déposer, il faut revenir les chercher. 2 mois, je suis restée sans ascenseur. C'était moi qui appelais tout le temps le bailleur. Et ils disent que voilà, ils vont venir le réparer.
Oui.
Et quand on a appelé Otis, moi je parle parce que l'ascenseur, c'est Otis qui s'en occupait. Quand on a appelé directement Otis, ils ont dit que, comme quoi le bailleur, il a refusé le devis de réparation.
Oui.
Voilà.
Il y a une association qui s'est constituée partie civile.
C'est la collective plus sans ascenseur.
Absolument. Qui s'est portée également partie civile pour le nouveau procès. Aujourd'hui, vous avez lancé aussi une pétition en ligne pour votre fils. Cette pétition, elle est arrivée aujourd'hui à une collecte de environ à peu près 19 000 qui ont signé. Vous en espérez 25 000. Donc, je dis à tous nos auditeurs qui nous écoutent partout en France, vraiment là, vous avez besoin d'un coup de main pour la pétition, pour aller attirer l'attention évidemment à la ministre de la Justice, au ministre de la Justice, sur change.org, justice pour Othman. Oui. Elle a 19 000. Il manque pas grand-chose pour arriver à 25 000. Donc vraiment, on alerte nos auditeurs pour qu'ils aillent signer cette pétition qui est déjà en ligne. L'office HLM aujourd'hui, c'est Mantyvelin Habitat. Il s'en est sorti avec aucune condamnation.
C'est pas qu'ils sont sortis aucune condamnation. Maintenant, elle n'existe plus, cette société. Elle était dessous. Donc, il n'y a aucune poursuite au niveau de mon ancien bailleur.
Oui.
Et c'est pour moi, je le prends, c'est comme une double peine pour moi.
Oui.
Parce que ça fait 6 ans que j'attends justice. Et à la fin, pour que je reçois un courrier de l'avocat général qui dise comme quoi l'association...
Oui, parce que le bailleur, rappelons-le, le bailleur social Mantyvelin Habitat était aux côtés d'Otis. Hein. Ils ont été relaxés.
Oui. Non, que dans la première instance, il y a que le Otis qui était condamné. Et le bailleur, il était relaxé déjà dès la première instance. Ça, c'est un truc que moi, j'arrive pas à le comprendre et j'arrive pas à l'encaisser.
Restez avec moi. Somaya, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez quoi évidemment?
Je suis déterminée à rendre justice à mon enfant, ça c'est sûr.
Je sais que vous êtes bien entouré. Beaucoup, évidemment, de la population du Val-Fouré vous soutiennent. Ils sont derrière vous. Ils vous accompagnent dans cette démarche. Et ils ont déployé toute l'énergie nécessaire, parce que j'ai eu aussi d'autres appels qui m'ont parlé de vous, Somaya. Somaya, reste avec nous. Il y a, évidemment, je vais prendre votre avocat, Maître Charles Morel. Bonsoir, Maître Morel.
Oui.
Bonsoir, Maître Morel. Écoutez, on vient d'écouter ce témoignage poignant concernant la mère du jeune Othman, Somaya. Maître Charles Morel, aujourd'hui, où en est-on dans la procédure concernant, donc, évidemment, le bailleur qui n'existe plus? De ce que me dit Madame Somaya, nous dit qu'il n'existe plus ce bailleur, Mantyvelin Habitat. Aujourd'hui, on en est où, précisément, dans ce nouveau procès?
Alors, en fait, nous étions donc en appel. Il y a eu une première condamnation, en première instance, de l'ascensoriste Otis, et une relaxe du bailleur, et donc l'affaire est venue en appel, sur appel notamment du parquet. Simplement, à ce moment-là, il a été constaté la disparition du bailleur en tant que personne morale. Bon, il y a encore cette discussion, mais du coup, l'appel s'est déroulé uniquement avec l'ascensoriste, dont la condamnation a été confirmée.
Oui.
Simplement, cet ascensoriste a fait un pourvoi en cassation pour un vice de procédure lié à la demande de renvoi à cause justement de la question du bailleur, pour examiner si le bailleur pouvait encore être poursuivi ou non suite à la disparition de la personne morale de l'établissement public.
Oui.
Et en fait, c'est le simple fait que l'ascensoriste n'ait pas eu la parole en dernier sur cette demande de renvoi qui a entraîné donc un vice de procédure.
Donc, Maître Morel, aujourd'hui, ce vice de procédure, les parents et d'autres associations ont lancé une pétition en ligne pour réclamer justice pour leur fils Othmane, pour son fils Othmane. Vous, vous dites quoi, maître, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez, évidemment, de cette justice concernant à la fois ce vice de procédure, mais également aussi pour peut-être espérer de faire le, de passer, évidemment, le deuil de cet impossible deuil concernant la mère Somaya?
Il y a deux choses, il faut comprendre. Donc l'affaire revient en appel et elle sera jugée. On a toutes les raisons de croire que la condamnation de la Saint-Cerise sera confirmée. Simplement, ce que souhaite la famille, elle considère, à juste titre, je pense, que ça n'est pas seulement la Saint-Cerise Otis, mais aussi le bailleur qui avait la charge de la surveillance, avec notamment des comptes rendus, enfin qui devait encadrer l'activité de la Saint-Cerise. Et elle estime qu'il devait être jugé. Voilà. Ça justifie d'ailleurs le rendez-vous qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà. Donc on continue de regarder si les informations qui ont été données à l'avocat général correspondraient à la réalité, ou s'il y a bien effectivement la possibilité éventuellement de remettre le bailleur dans cette affaire, ou en tout cas de trouver une solution qui consacre la reconnaissance, parce qu'en termes de dommages et intérêts, je pense que ça n'aura pas énormément d'incidence. L'incensoriste sera condamné.
Qu'est-ce que vous pouvez espérer, vous, maître Morel? Qu'est-ce que vous pouvez espérer, vous, maître Morel, pour la famille?
Sur le plan judiciaire, malgré le temps qui passe, j'ai toutes les raisons d'espérer que nous obtiendrons satisfaction, la confirmation de la condamnation de l'incensoriste. Mais ce dont la famille a besoin, je crois, et la soutient en cela, c'est aussi que le bailleur reconnaisse sa responsabilité. Alors, oui, il y a toutes les arguties juridiques que l'on veut, mais je pense que la reconnaissance d'une responsabilité, quelle que soit la façon dont elle s'obtient, serait très importante. On ne parle pas d'argent, là. On parle simplement d'une reconnaissance des responsabilités respectives du bailleur et de l'ascensoriste. Et on voudrait que maintenant les choses se terminent, parce que ce pourvoi en cassation, même s'il a obtenu gain de cause sur un vice de procédure, franchement, il n'est pas respectueux de la famille. On aurait pu s'en dispenser.
Merci, maître Charles Morel. On va suivre ce dossier précisément. Merci d'avoir été avec nous dans les informés sur BFM, maître Morel.
Je vous en prie.
Somaya, vous êtes toujours avec nous, Somaya. Somaya, vous êtes toujours là?
Oui.
Restez avec moi, puisque je voudrais évidemment vous poser encore une dernière question. La pub nous oblige à la lancer tout de suite. Restez avec moi, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. Merci. Restez avec nous, à tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h25, merci d'être avec nous dans les informés. Bien sûr, dans une poignée de minutes, nous serons avec un autre avocat aussi, maître Jean-Claude Beaujour, qui lui viendra débattre et commenter l'actualité avec nous au 0153-48-3000. Nous retrouvons notre invité, Soumaya, qui est la mère de famille donc du jeune Othmane mort il y a 6 ans dans un ascenseur qui était visiblement défectueux, dangereux. Et on en continue d'en parler et je voudrais vous entendre, et vous aussi au 0153-48-3000 partout en France. Soumaya, vous êtes avec moi. Je vous retrouve juste donc après la pub. Soumaya, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Depuis que j'ai annoncé donc sur change.org, la pétition pour Othmane, 7 ans, tué dans un accident d'ascenseur, change.org, justice pour Othmane, allez-y, chers amis auditeurs. Ça monte pas mal. Je vous l'ai annoncé, Soumaya, c'est en train de monter pas mal. Il faut aller signer cette pétition. C'est important. Il lui reste plus que quelques signataires pour toucher les 25 000. Donc c'est pas grand chose, mais il faut y aller de grâce parce qu'il faut l'aider, cette maman. Et oui, le deuil, il est quasiment impossible. Ad vitam aeternam, ma vie. Soumaya, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On a entendu votre avocat, maître Charles Morel. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, évidemment, dans cette incroyable histoire qui vous arrive, évidemment, concernant Othmane, 7 ans mort dans un ascenseur?
Oui.
C'est terrible pour une mère de famille.
Oui, j'ai envie de dire que, voilà, je suis déterminée dans mon combat pour rendre justice à mon enfant. Et que ce combat, je l'ai mené, c'est pour aussi dénoncer et alerter au problème des ascenseurs. Et comme quoi, ça peut pas. Si ça peut empêcher que d'autres enfants. Je me trouve dans la même drame que moi, que ma famille. Il faut pas oublier qu'il y a aussi l'enfant Ismaël de Argenteuil.
Oui, Argenteuil, oui.
L'employé Bilal aussi, qui est décédé dans un ascenseur en
2002. Ils sont nombreux, vous avez raison de le rappeler.
En 2008. Il faut quand même, c'est un gros problème là. Donc il faut, Il faut vraiment alerter au problème des ascenseurs.
Pour combler votre deuil, vous avez alerté, évidemment, et vous avez raison d'alerter les bailleurs, et vous avez raison d'alerter, évidemment, concernant donc tous ces ascenseurs défectueux dans les quartiers populaires. Comment vous voulez mener votre combat à terme, Soumia, pour, évidemment, je sais que le deuil ne se fera jamais, mais comment vous voulez combler, évidemment, ce deuil? Sous quelle forme de combat vous voulez l'embarquer?
Ben, en fait, moi, je veux justice. Je veux que, quand mon fils Lorkman, que je l'ai eu après le décès de mon fils Altman, je veux quand il sera grand, ben, je lui raconte, si je lui raconte des souvenirs, j'ai envie de lui dire qu'il y avait de la justice, que j'ai pas abandonné la justice pour mon fils, et je lui raconte toute l'histoire, que je me suis battue pour rendre justice à son frère.
Eh ben, merci, Soumia. Je le rappelle, votre fils mort donc dans un ascenseur. Et puis l'ascenseur, d'ailleurs, lui-même, qui avait été condamné à l'époque, hein, 60 000 euros d'amende, me semble-t-il.
Oui.
On va suivre.
Je voulais juste vous rajouter que mon combat, je l'ai mené, c'est pas pour l'argent. Même s'il me donne l'argent, ça va pas me rendre mon enfant. Hein, même s'ils me donnent l'argent du...
Mais évidemment, vous avez raison.
Ils ne vont pas me rendre mon enfant. C'est moi, je veux la justice, je veux une condamnation. C'est la condamnation qui reconnaisse leur responsabilité.
Oui. Qu'est-ce que vous dites, Maître Beaujour? Bonjour.
Mon confrère l'a bien précisé tout à l'heure. Effectivement, ce que recherche cette maman, et on peut comprendre sa douleur, c'est la responsabilité pénale, parce que visiblement, je ne connais pas le dossier, mais visiblement sur le plan civil, elle sera indemnisée. Mais elle dit bien, c'est pas l'argent qui est important, c'est le fait de voir sanctionner pénalement le bailleur, parce que c'est vrai que dans notre pays, trop souvent, il y a un laisser-aller, surtout dans les quartiers. Dans les quartiers sensibles, avoir un appartement, un immeuble qui soit en état d'être habité, c'est l'habitabilité. On doit pouvoir imposer ce critère de qui est essentiel. Il faut, ça commence par ça. Si on veut remettre peu d'ordre, si on veut que dans nos cités, dans nos quartiers, et vous savez que je n'aime pas toujours le mot quartier parce que c'est négatif, mais si on veut insérer, si on veut que nos jeunes aient un peu d'espoir, il faut déjà commencer par donner aux uns et aux autres un cadre de vie humain.
Absolument.
Humain. Et elle Absolument. Vous dit, cette maman, elle était enceinte. Comment pouvez-vous penser une seconde que pendant 3 mois, une femme enceinte monte et descend à longueur de journée? Comment mentalement voulez-vous que l'on voit l'avenir positivement? Comment voulez-vous que des jeunes ne se sentent pas mal? Ce qui est, vous savez à quel point je suis pour la sanction de tous ceux qui font des bêtises, mais il faut aussi leur offrir un avenir, et ça commence par ça. Chacun doit prendre ses responsabilités.
Exact, Maître Beaujour. Hein. Soumaya, vous avez entendu, Maître Jean-Claude Beaujour?
Oui.
Absolument.
Oui, merci.
En tout cas, on vous souhaite bon courage pour votre combat.
Merci beaucoup.
J'ai vu, effectivement, vous savez, un de nos slogans aussi ici dans Les Informés, c'est qu'on ne lâche rien. Et j'ai bien vu que votre pétition, vous finissez par dire « nous ne le lâcherons pas ». Pour la mémoire de votre fils Othman, vous allez continuer le combat, et je vous souhaite bon courage. Et j'invite tous nos auditeurs qui nous écoutent partout en France à aller signer la pétition sur change.org. Sur donc justice pour Othman au Valfouré à Mantes-la-Jolie. Il faut aller signer cette pétition qui doit arriver à 25 000. Oui, Soumaya.
Je veux juste rajouter que Othman, c'est pas l'enfant de Mantes-la-Jolie tout seul. Ça peut être l'enfant d'Argenteuil, ça peut être l'enfant de Lémuro, ça peut être l'enfant de toute la France. Donc Othman, c'est juste un cas. Donc ça peut.
Parmi d'autres.
Si ça peut mobiliser pour que ça s'arrête, j'irai jusqu'au bout.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon courage et on suivra ce dossier très, très vite. Merci, Soumia, et on vous souhaite plein de bon courage. Et merci. Je dis aux auditeurs d'aller signer cette pétition, effectivement. Merci, Soumia. Merci. 19h31, Maître Beaujour, je vous retrouve dans une poignée de minutes, juste après votre confrère, un autre qui signe chaque lundi, vous savez, son billet d'humeur. Il s'appelle Maître Philippe-Henri Honegger, chez Ruben et Associés. C'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Bonjour, mon cher maître, comment ça va?
Bien, très bien.
Bon, tout va bien pour vous. Les vacances, vous prenez un peu quand même quelques jours pour récupérer quand même, mon cher maître?
Je ne prends pas, mais c'est un peu plus calme en ce moment.
Un peu plus calme. Alors, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur à la déclaration de Valérie Pécresse sur ce que c'est qu'être français. On vous écoute, mon cher maître.
Oui, interview cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai enfin appris ce que ça voulait dire être français, moi qui me posais la question depuis tellement longtemps. Mais j'ai compris, puisque c'est la citation de Madame Bettel, qu'être français, c'est manger du
froid. On vous perd, mon cher maître, hein, la connexion est mauvaise, ça arrive régulièrement.
Vous m'entendez pas, là? Ben normalement, vous devriez m'entendre. Vous m'entendez?
Ben écoutez, on est en train de vous perdre, mon cher maître. C'est malheureux. Allô?
Oui, est-ce que là c'est bon?
C'est un peu mieux, on vous écoute.
Un peu mieux. Donc j'ai appris que être français, c'est donc manger du foie gras, avoir un sapin de Noël et lire Miss France et regarder le Tour de France. Et je dois vous dire que j'étais un peu étonné parce que l'avocat que je suis, la seule chose qu'il connaît sur le fait d'être français ou de devenir français, c'est ce qu'en dit le droit. C'est-à-dire, soit on est français par le droit du sol ou le droit du sang, soit on le devient par la filiation, par la naturalisation, par le mariage. Et puis, je me suis un peu posé la question, mais attendez, en fait, ce dont elle nous parle, cette dame, c'est l'identité française. Alors, j'ai regardé le corpus juridique de la France. Et c'est vrai que la seule référence à l'identité qui existe en France, c'est celle de la carte d'identité. Bah, si vous avez une carte d'identité française, vous êtes français et votre identité est déterminée que par l'existence de cette carte. Et puis, je me suis dit, mais peut-être en fait, être français, ce sont les droits, les libertés, les pouvoirs qui sont prévus par nos institutions, par le fait d'être français. Et être français, justement, me semble-t-il, en tous les cas, c'est ce qu'en dit notre constitution, c'est ne pas, par exemple, devoir pratiquer Noël, mais c'est au contraire avoir le droit de définir sa religion, de choisir son culte, de fêter Noël ou pas, d'avoir l'exercice en fait libre de sa religion et même protégé par l'État, parce que c'est ce que fait, c'est ce que prévoit la laïcité. C'est ça aussi la spécificité française par rapport à d'autres États dans lesquels ils ont déjà.
On vous perd, mon cher maître.
Ah,
vous êtes revenu.
C'est le cas de l'URSS, vous savez, où c'était l'interdiction d'avoir une religion. Donc sur ce point, je dirais que je suis plutôt, en tous les cas, le droit français en désaccord avec ce qu'elle pense. Être français, dit-elle, c'est aimer le Tour de France et lire Miss France. Mais la liberté culturelle, cette fois, et pas culturelle, c'est juste de la spécificité française. Le contraire, l'opposition au totalitarisme qui impose une sorte de doxa nationale, qui impose une vision unique de la nationalité d'un pays. Et puis, la spécificité française, moi j'ai plutôt l'impression au contraire de dire c'est manger du foie gras, c'est justement d'avoir le choix de manger ou pas, mais plus précisément, parce que c'est de ça dont on parle, de pouvoir discuter du droit ou non d'en manger, et de pouvoir remettre en cause des traditions anciennes. Et c'est ça, la démocratie, c'est pouvoir rediscuter et remettre chaque jour en discussion des choses qu'on croyait éternelles. Il faut pas oublier, et si c'est pas ça être français, que la France, c'est le pays qui a fait tomber l'ancien régime. C'est le pays qui a coupé la tête des rois. Et cette capacité qu'on a à réfléchir nos traditions, à les faire avancer, à les faire évoluer, elle est extrêmement importante. Elle s'est traduite à travers la protection des animaux qui est de plus en plus grandissante. Alors je dois vous dire que la vision de Valérie Pécresse, non seulement elle est pas ce que c'est français, mais elle est le contraire absolu, me semble-t-il, d'être français. Et je trouve ça particulièrement inquiétant que celle qui prétend à devenir la présidente des Français et de tous les Français est en fait comme projet politique de détruire ce qui, à mon sens, est la véritable identité française.
Oui, oui, vous amenez toujours les choses de façon sarcastique et je pense que vous avez bien raison, c'est vrai, de nous le rappeler sur le volet juridique, mon cher maître.
J'essaye et je souhaite à ceux qui le fêtent un joyeux Noël et à ceux qui ne veulent pas le fêter qu'ils en profitent tout autant parce que c'est ça la beauté d'être français.
Exactement, merci infiniment mon cher maître. Nous ne serons pas là lundi prochain puisqu'on va prendre quelques jours évidemment pour aller aussi changer d'air. Nous vous retrouverons à la rentrée sans faute pour d'autres billets d'humeur.
Je serai toujours là.
Un grand merci à vous mon cher maître Philippe Henri Honegger, cher Ruben et associé. Passez de bonnes fêtes mon cher maître.
Je vous en prie, ouais, vous aussi.
19h36, on marque la deuxième pause pub et on se retrouve avec maître Jean-Claude Beaujour et les invités au 01 53 48 3000 avec les sujets justement que je viens d'évoquer tout à l'heure. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, si vous venez de nous retrouver, 19h41, une dernière ligne droite, justement avec le face-à-face.
Les informés Le face-à-face.
Le face-à-face, justement, c'est avec maître Jean-Claude. Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir plutôt. Comment ça va ?
Écoutez, très bien, d'autant qu'on va prendre quelques jours de repos avant de recommencer 2022 de manière très active.
Absolument. Maître, bonjour, nous allons traiter les sujets qui ont retenu notre attention. D'ailleurs, vous pouvez aussi converser avec nos auditeurs au 01 53 48 3000. Dites-moi ce premier sujet qui m'a interpellé, moi, parce que je l'ai trouvé complètement ubuesque, c'est la satisfaction, les rires et un peu gênés, les moqueries aussi sur les réseaux sociaux, depuis que Annie Hidalgo, elle a beaucoup amusé justement sur le web quand elle dit « je découvre Paris en taxi et moins il y aura de voitures, plus vous voudrez de taxis ». Comment doit-on interpréter évidemment cette déclaration ? Est-ce que c'est un coup de com' ? Elle s'est dit « oui, peut-être que j'ai l'espoir de faire parler de moi parce que c'est la pleine campagne présidentielle » ou là, c'est voté en beauté.
Que ce soit un coup de com', peut-être. Qu'elle se soit vautrée, sans doute. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, Madame Hidalgo, en réalité, n'a pas compris une chose. C'est qu'elle est candidate à la présidence de la République aujourd'hui. Elle n'est plus candidate à la mairie de Paris. Et donc, il faut qu'elle parle à l'ensemble des Français. Elle est en train de nous expliquer qu'elle découvre le taxi.
Moi, ça me parce qu'elle découvre Paris.
Attendez. J'y viens.
C'est bizarre,
j'y viens.
Pour une mère de Paris. Non seulement
elle découvre, mais je vais vous dire ce qu'il y a de plus choquant. C'est que Madame Hidalgo, ça montre bien, puisqu'elle veut devenir... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est candidate à la présidence de la République.
Vous avez raison.
Madame Hidalgo, en réalité, ne connaît pas le pays. Elle connaît la place de l'hôtel de ville et elle peut aller en taxi d'un point à un autre. Parce que je vais vous dire, Arline, vous pensez que prendre un taxi, quand vous êtes en pleine campagne, vous pouvez vous mettre sur le bord de la route et puis faire 30 kilomètres en hélant un taxi ? Parce qu'en réalité, c'est ça qu'elle veut vous dire. C'est ce qu'elle veut vous dire.
Oui,
c'est que
c'est ça, vous avez raison.
Plus de voitures et on va pouvoir prendre des taxis parce supprimer que c'est extrêmement voitures. Simple. Mais écoutez, la France ne se limite pas à Paris et c'est beaucoup de, j'ai presque envie de dire que c'est presque du mépris pour l'ensemble de nos concitoyens qui vivent en région. Vous savez, moi je passe beaucoup de temps en région, mais parfois c'est compliqué de prendre d'aller travailler parce que quand on dit l'emploi le plus proche est à 40-50 kilomètres, vous pensez qu'on peut prendre un taxi ou des transports en commun. Donc non, soyons sérieux. On ne peut pas imaginer la France simplement à l'image de Paris. Paris n'est pas la France. Nous avons nos régions.
Nos régions, effectivement. Donc, si on peut espérer que c'était un coup de stratégie de communication, c'est loupé, c'est mort.
Pour moi, ça veut dire qu'elle ne connaît pas la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour moi, elle ne connaît pas la France. Vous avez énormément de régions. Vous n'avez pas un volume de taxis. Ça peut être compliqué. Moi, il m'arrive d'aller dans telle ville, j'en citerai pas, mais où on vous dit, voilà, il y a trois taxis qui tournent, il faut les commander de préférence en avance. Vous pouvez pas comme ça vous mettre sur le bord de la route et puis vous dire, je vais aller un taxi, et donc ça peut être compliqué de ville de province à petite ville de province de prendre les transports en commun. Ça peut être compliqué, d'autant que on a fermé toutes les gares parce que on veut rentabiliser, et j'entends bien qu'il y a des économies à faire. Donc quand vous n'avez plus de gare, vous n'avez plus de taxi, vous n'allez pas parfois faire 70 km simplement en vélo ou bien à pied. Enfin bon, je sais pas, mais peut-être que Madame Hidalgo a la solution.
Donc on peut considérer, est-ce que vous dites, quel est le regard que vous portez justement sur Anne Hidalgo et cette campagne qui est menée
aujourd'hui ? Elle est l'otage des Verts en réalité.
Oui. C'est
une forme d'extrémisme. Bien sûr que nous sommes tous pour la politique de développement durable, nous voulons tous faire attention au climat et on sait qu'il faut accélérer. Je comprends ce sujet. Pour autant, il ne faut pas nous mettre dans une bulle et ignorer complètement la réalité, enfin. Or là, elle montre bien qu'elle ignore la réalité de la plupart des Français. Madame Hidalgo, malheureusement, aurait dû faire son tour de France avant l'entrée en campagne. Pour pouvoir être président de la République, faut aussi un peu sortir de, je vous dis, de la place du Châtelet, enfin la place de l'hôtel de ville qui est sa résidence officielle. Faut se déplacer à travers le pays.
Effectivement, deuxième sujet qui a retenu notre attention, maître Jean-Claude Beaujour, 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir aussi. Pour Mahmoud Zurek, professeur d'épidémiologie et de santé publique, le feu vert de la Haute Autorité de Santé pour la vaccination des 5-11 ans, mon cher Jean-Claude, est une excellente nouvelle. Vous y répondez quoi ? Parce que nous, on n'a eu que des réticences la semaine dernière quand j'ai ouvert l'antenne. Beaucoup d'auditeurs ne souhaitaient pas que leurs enfants, entre 5 et 11 ans, soient vaccinés. J'ai eu beaucoup d'appels. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler ce soir au 01 53 48 3000. Alors, avec ce variant notamment, aussi transmissible qu'Omicron, pardon, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que notre société soit paralysée complètement, infectée, parce qu'on nous dit carrément, le professeur Mahmoud Zurek, qui dit, d'ici mi-janvier, nous allons être, beaucoup de gens vont être contaminés, et que ça va être quand même, il tire la sonnette d'alarme, là, j'ai bien compris, dans le JDD de ce week-end.
Alors, deux choses. La première, c'est que il y a encore une grosse poche de personnes sensibles ou en tout cas à risque qu'il faut continuer à convaincre de se faire vacciner. Ça, c'est la première chose.
Les non-vaccinés ?
Oui, je parle dans les non-vaccinés. Il y a énormément de personnes qui sont à risque et il faut donc continuer par une forme de pédagogie la plus stricte, les inciter à se faire vacciner. Deuxième élément, s'agissant des enfants. Moi, je peux entendre, et je dis bien, j'entends la réticence des parents. Maintenant, là où il faut...
Ils ont été nombreux la semaine dernière à être réticents.
J'entends, mais attention, il ne faut pas... J'entends les peurs, et c'est là où, à un moment donné, il faut aussi entendre les scientifiques. Moi, jusqu'à preuve du contraire...
Le professeur Mahmoud Zurek, qu'est-ce que vous répondez?
Moi, je suis pas scientifique, donc je ne peux pas dire...
Professeur de santé
pas,
publique.
Je suis obligé de me fier à ceux qui sont les scientifiques, qui sont grandement, parce que je pense qu'il faut aussi le redire, il peut y avoir eu des débats, mais on a grandement, dans une situation d'urgence, on a des gens qui sont sérieux. Et donc, ils formulent des recommandations. Moi, je dis aux parents, et je comprends, je n'ai pas d'enfant entre 5 et 11 ans, donc c'est vrai que c'est plus éloigné, mais j'entends la réserve des parents. Pour autant, je leur dis, soyons assez attentifs à la situation autour de nous, parce qu'effectivement...
Vous savez ce qu'il fait comme déclaration? Il dit dans le JDD de ce week-end, nous allons probablement connaître des niveaux de contamination jamais atteints. Est-ce que là, il n'est pas en train de nous mettre dans une espèce de psychose?
Pardon
de vous poser la question de façon provocatrice, mais elle est là, la vraie...
Je vais vous répondre. Ça serait pas correct de ma part de vous dire oui ou non, parce qu'effectivement, je n'ai ni les données, ni la connaissance scientifique pour pouvoir dire de manière formelle, et j'ai une responsabilité en parlant à votre micro, je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. En revanche.
Vous êtes favorable alors? Oui, allez-y, en revanche.
J'imagine que le professeur a bien conscience des éléments qu'il annonce, et que s'il l'annonce, il a au moins des éléments pertinents pour pouvoir justifier de sa position. En tout état de cause, moi, je suis favorable.
Oui.
Depuis le début et depuis
lorsque des enfants entre 5
alors,
et attendez, 12
attendez,
ans et 5
attendez,
ans, oui
attendez,
ou non
attendez, attendez. Ah. Je suis favorable depuis le début lorsque le Premier ministre a annoncé au mois de l'été, au début de l'été. Je disais dès le départ, il faut maintenir notre politique de gestes barrières parce que j'ai le sentiment qu'on s'est relâché. J'ai le sentiment qu'il fallait continuer à accéder. Oui, oui, je pense qu'on s'est relâché. Moi, je suis désolé, je prends les transports en commun. Et vous voyez, pour le coup, je prends le métro, je prends le bus. Tout est bondé, même si on est en fin d'année. Je comprends que les gens partent faire leurs courses, mais l'année dernière, ça n'était pas comme cela. Je pense qu'on s'est beaucoup relâché, et c'est vrai que cette contamination, elle est énorme. Donc, là encore... Je n'ai pas de point de vue arrêté pour les enfants de 5-10 ans. Je vous ai bien dit, il faut accélérer la vaccination pour les personnes les plus à risque. Il faut maintenir les gestes barrières. Il faut faire en sorte que dans l'entreprise, on puisse
donc
organiser...
Dans votre entourage, vous avez l'impression que les gens se sont relâchés. Ça, c'est une réalité.
Mais moi, je vis... Ouais.
Je
vais vous dire, je suis toujours un peu provocateur. Moi, je vis pas à l'hôtel de ville, dans un grand bureau, dans un grand ministère, là, au Xème étage. Hein. En venant chez vous, j'ai pris le bus. Donc, je vais faire mes courses, je vais au marché, je vais... voyez, et je vois que les gestes barrières ne sont plus respectés là où ils l'ont été l'année dernière. Donc, je dis... qu'il faut qu'il y ait massivement une opération sur ces gestes barrières, parce que ce que redoute le professeur de médecine, c'est qu'effectivement l'absence de prise en compte du risque fait que le virus va s'accélérer. Il y a une forme d'accélération
exponentielle. Mais la transmission du virus, est-ce qu'elle se fait aussi, y compris par les enfants qui ont entre 5 et 11 ans?
Je vais vous dire, j'ai pas la réponse, parce que là encore, moi je suis honnête, je suis pas médecin et j'ai pas les données scientifiques.
Vous avez raison.
Je n'ai pas les données scientifiques, donc je ne peux pas contredire ou abonder. Alors, en revanche, en tant qu'acteur, en tout cas que être leader d'opinion politique, je pense qu'il faut déjà épuiser ce que nous avons comme élément factuel, fiable, qui a déjà fait des preuves, avant de passer à la forme la plus impérative.
Alors,
De notre politique de santé publique.
Et là, je m'adresse à l'avocat que vous êtes, Jean-Claude Beaujour. Dites-moi, le pass sanitaire en entreprise sera-t-il la nouvelle norme, justement?
Ben, c'est, vous savez.
Et ça fait débat, hein. Ben, ça fait débat.
Il y a deux sujets, parce que.
Montrer son passe de travail pour rentrer dans son lieu de travail, c'est
alors,
quand même.
Non, mais attendez. Il se pose là. Les gens qui parfois disent des choses, ou disent, voilà, il y a tel projet, après, il faut regarder concrètement comment ça se passe. La première des choses, obliger le pass sanitaire, ça veut dire que celui qui l'a pas, est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il rentre pas dans l'entreprise?
Ben, oui.
Et au bout d'un moment, est-ce que vous le licenciez ou est-ce que vous ne le licenciez pas? Ben. Or, en droit, il y a un problème, parce que vous ne pouvez licencier une personne que pour faute. Est-ce que ça va constituer une faute? Et est-ce que ça sera un motif à licenciement, etc. Bon, bref, il y a matière à réflexion. Deuxième élément. Passe sanitaire concerne, malgré tout, il y a une dimension état de santé de la personne qui a ce passe sanitaire. Est-ce que un tiers est autorisé dans le milieu du travail à connaître mon état de santé, vacciné, pas vacciné, même si je concède que dans certains milieux, je dis bien dans certains milieux, la dimension de vaccination, la dimension de santé est importante. On n'imagine pas effectivement un pilote qui soit pas bien, qu'on le laisse prendre l'avion. Et troisième élément, qui va contrôler? Comment ça va être contrôlé? Et quel sera le coût de ce contrôle?
Je vais m'adresser à l'avocat. Est-ce que le salarié peut se retourner et dire non, je n'ai pas de passe sanitaire, je n'ai pas à le présenter?
Mais ce que je peux dire, qui va contrôler? Comment vous avez contrôlé? Comment ça va s'organiser? Vous allez avoir des queues pas possibles, et puis qui va contrôler? À la charge de qui financièrement? Et ça veut dire nous sommes sur du très concret. Est-ce que l'entreprise va recruter un poste, va payer un poste de travail pour la personne qui sera au contrôle?
Et vous donc le nombre de salariés qui risquent de...
Absolument, vous imaginez la défense tous les matins dans les tours avec le contrôle, oui. Etc. Vous imaginez ce que ça va créer comme bouchon.
Et la question que je vous pose, c'est est-ce que le chef d'entreprise, lui, est un gendarme, est un policier?
J'y venais. Le chef d'entreprise n'a pas, ça n'est pas sa fonction. Pas il n'a pas une mission, il n'a pas une délégation de service public en matière sanitaire. Et là, ça pose problème. C'est pour ça que l'entreprise n'a pas à s'immiscer dans la santé des salariés. L'entreprise ne peut vérifier que si le salarié est apte ou pas apte à son poste de travail. Voici. Et donc, oui, ça pose un vrai problème. Faire peser sur l'entreprise. Et il faut être attentif à une chose. Notre tissu économique est essentiellement composé de PME. Parce que quand on parle d'entreprise, vous savez, très souvent, on parle des multinationales, on parle des entreprises du CAC 40. Mais les entreprises du CAC 40, c'est 40 entreprises en France. Hein.
Oui.
C'est 40. Et on dira, les grandes entreprises, toutes ne sont pas au CAC 40, c'est peut-être 200 entreprises au maximum. Donc la plupart de le tissu économique est à 80% composé de PME et d'entreprises de niveau intermédiaire. Il ne faut pas plomber économiquement nos entreprises.
Merci pour ce décryptage, mon cher maître Jean-Claude Beaujour. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes.
Bonnes fêtes à vous.
Donc rendez-vous à la rentrée.
Bonnes fêtes à vos auditeurs. Et puis j'espère qu'ils seront nombreux à continuer à nous suivre dans la réflexion qui est la nôtre.
Absolument. Bilal Nedmad, bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Très bien, mon cher Bilalou. Comment alors? Qu'est-ce que tu nous annonces pour le programme de Time Sport de 20h à 21h?
Le programme de ce soir, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, la Coupe arabe du côté du Qatar où l'Algérie a brillé.
Absolument.
Une magnifique finale face aux Aigles de Carthage des Tunisiens. Faut pas oublier aussi ce qui s'est passé en Coupe de France. Les amateurs sont complexes. Ils se qualifient bien, ces clubs, excusez-moi. J'en perds mon latin. Et aussi le PFC Olympique Lyonnais et le dérapage de trop. Peut-être pour l'Olympique Lyonnais, voire aussi dans ce match de 32e de finale. On aura aussi le psycheur du Gilbert Azoulay qui sera en direct avec nous et du club Paris FC. Voilà.
Beau programme qui vous attend de 20h à 21h. Bilal Nedmad vous attend dans une poignée de minutes. Merci à la réalisation à Yanis. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.